évidemment pas parler des croissants, mais des montres aujourd'hui. Des chiffres très attendus tout à l'heure, ce sont ceux des exportations horlogères en 2015. Ils vont tomber à peu près vers 8 heures dans un peu moins d'une demi-heure. Ils sont attendus en forte baisse, a priori, et pour cause. La montre suisse qui vit une période mouvementée 2015, c'était bien sûr l'abandon du taux plancher au début 2015. Un croche-patte pour tous les exportateurs. Puis 2015, c'était aussi l'année de la dégringolade des ventes en Asie. Et puis surtout, il y a eu le déferlement de l'Apple Watch, la montre connectée du géant américain qui bouleverse le marché. Alors le temps des vaches grasses est-il révolu pour les horlogers helvétiques? Le plaisir ce matin de recevoir Jean-Claude Biver, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous jusqu'à 8h, grand patron horloger. Vous êtes le patron du pôle horloger du groupe LVMH, numéro 1 du luxe mondial. Et le pôle horloger, c'est notamment TAG Heuer, Hublot, Chaumet, Zenith, Bulgari, etc. Vous avez donc une vision très large du marché horloger. Les chiffres, on le disait, vont tomber dans un peu moins d'une demi-heure. Bon, vous les avez, vous, les chiffres, Jean-Claude Biver?
Non, je suis comme vous, je les ai pas, mais je peux m'imaginer.
Qu'ils sont pas très bons.
Ah, disons, ils vont pas être trop mauvais, parce que je pense qu'on sera à -3, -4% par rapport à l'année dernière. Et quand vous êtes à -3 par rapport à une année historique record, et le -3 ou le -4 que nous aurons maintenant, à 8 heures, sera toujours supérieur à ce que nous avions en 2013. Donc ça sera la deuxième meilleure année après 2013. Mais c'est vrai qu'elle sera moins bonne que 2014. Donc je ne parlerai pas encore de catastrophe.
Mais c'est une tendance durable selon vous, cette baisse des ventes?
Alors c'est une tendance durable aussi longtemps que la tendance dans le monde sera aussi incertaine qu'aujourd'hui. On a quand même des tensions incroyables, on a une baisse du pétrole, on a une baisse des bourses, on a une agitation toujours par résolu en Russie, vous rendez compte, il y a toujours un embargo sur la Russie, il y a des conflits au Moyen-Orient, il y a des menaces de terrorisme, donc le monde est dans une sorte d'instabilité politique, économique, financière, comme nous avons rarement connu, et évidemment, la montre étant un produit de luxe, d'ailleurs, on peut le dire, l'industrie horlogère suisse vit principalement par les montres de haut de gamme.
Évidemment.
Eh bien, ces montres de haut de gamme subissent forcément des fluctuations qui sont en rapport avec l'état du monde, et l'état du monde est incertain.
Le marché asiatique a progressé de plus de 70% durant la dernière décennie. Ça ne pouvait plus durer, de toute façon. On peut se dire ça, Jean-Claude Biver?
Non, si, ça peut durer, parce que si dans l'Asie, vous mettez l'Inde, et si dans l'Asie, on considère la Chine, parce que la Chine, on parle d'un problème chinois, mais la Chine, c'est quand même 1,5 milliard d'habitants, et elle est où la classe moyenne en Chine? Ben, elle est en formation. La Chine n'a pas pour le moment une classe moyenne très étendue. Et la classe moyenne, selon des statistiques, mais ça vaut ce que ça vaut, on l'estime en 2025, donc c'est dans moins de 10 ans, à atteindre plus de 500 millions de personnes.
Mais vous ne lui vendez pas les montres à 50 000 francs à cette classe moyenne?
Non, mais on leur vend peut-être des montres à 2 000. Et une montre à 2 000, c'est quand même, je trouve moi, une montre déjà de luxe et très chère. Donc, si je prends des marques, moi je ne veux pas citer maintenant des noms, mais je prends maintenant une marque de chez nous, TAG Heuer, vend des montres en moyenne à 2 500 francs au public. Donc, la classe moyenne qui achète des montres entre 1 000, disons, et 2 000 francs, elle est extrêmement importante.
Il ne faut pas désinvestir ce marché, je parle du marché asiatique.
Surtout pas. Et au contraire, vous savez, moi je dis toujours, c'est quand le marché est difficile qu'on peut gagner des parts de marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le marché fait -3, admettons qu'aujourd'hui on annonce -3 à 8 heures,
et c'est ce qui va être le cas probablement, -3,
voilà,
-4.
Probablement, oui. -3,5 peut-être. Bon, eh bien, je ne révèle rien parce que je l'ai dit dimanche à la NZZ, TAG Heuer a fait +2,5. Mais la différence entre +2,5 et -3,5, eh ben c'est comme par hasard 6. C'est-à-dire, quand ça va mal et que vous faites +1 et le marché fait -3, eh ben vous faites 4. Oui. Et ça, c'est quand même des conditions qu'il faut prendre. Dans les difficultés, il y a des opportunités et des menaces. Alors, les menaces, il faut s'en protéger, mais les opportunités, il faut les explorer.
Alors, les opportunités, vous en avez exploré une assez vite l'année passée, c'est la montre connectée. D'abord, est-ce que la montre connectée a une petite part de responsabilité dans la baisse aussi des exportations horlogères suisses, l'horlogerie suisse qui n'est pas encore totalement connectée, même pas très connectée? connectée. Est-ce que la montre connectée a une part de responsabilité là-dedans? Est-ce qu'on peut le dire déjà?
Honnêtement, je crois
pas. Je parlais de l'Apple Watch, voilà.
Non, je crois pas. Oui, l'Apple Watch ou la Tag Watch ou la nôtre, je ne crois pas. Et vous savez pourquoi je crois pas? Parce que nous avons quand même aujourd'hui avec Tag Heuer une expérience sur la montre connectée toute récente.
Oui, c'est quelques mois.
On a reçu plus de 80 000 commandes pour une montre où on pensait qu'on allait en vendre 20 000. Donc il y a quand même un premier résultat. Le premier résultat nous indique quoi? Que ce sont des nouveaux consommateurs.
Des gens qui n'avaient pas de montre avant.
En tout cas pas des montres de chez nous. Peut-être qu'ils avaient une Seiko, j'en sais rien, une Casio, je sais pas. En tout cas pas des montres de chez nous. Et on est stupéfait de voir qu'on a ouvert la porte à une nouvelle clientèle. Et c'est pour ça que je ne pense pas que si les résultats de la Fédération Horlogère vont venir à 8 heures, je ne pense pas qu'ils soient négatifs à cause de la montre d'Apple ou la nôtre.
Alors, Tag Heuer, j'ai vu ça, vous prévoyez de vendre jusqu'à 120 000 montres connectées
cette année,
200 000 en 2017. Bon, c'est très belles ambitions, cela dit, je prends Apple Watch, ils en ont vendu 9 millions l'an dernier, ils prévoient d'en vendre 24 millions cette année. Vous pouvez pas régater, clairement.
Ah, bien sûr que non. D'ailleurs, la Apple Watch se vend à $400. Sauf erreur, et la nôtre, la moins chère, à $1,500. Donc on n'est pas du tout dans le même métier, bien que la montre indique la même chose. Mais nous avons une véritable montre en titane, hyper légère, 35 grammes. C'est-à-dire, nous, on a toute l'industrie, on a tout l'héritage suisse qui est dans notre montre, alors qu'à Apple, ils ont l'héritage Silicon Valley.
La classe moyenne chinoise va acheter des montres connectées suisses de moyen haut de gamme. C'est à eux que vous voulez les vendre en priorité.
Pas seulement, on veut les vendre en priorité aux Américains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on donne une grande priorité aux Américains. On veut la vendre aux Japonais. On veut la vendre ensuite, évidemment, vous avez raison, on va la vendre en Chine.
Jean-Claude Biver, je crois que c'est une question qu'on vous a déjà posée, mais je vais la reposer, tant pis. On dit qu'avec la montre connectée, c'est la même révolution qu'avec le quartz dans les années 70 et l'histoire de l'horlogerie suisse qui n'a pas vu venir le POC. Est-ce que c'est vraiment la même chose?
Non. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est pas du tout la même chose. La montre connectée peut vivre à côté de la montre horlogère suisse de tradition.
On peut être au top dans les deux domaines, c'est-à-dire au top en haute horlogerie et au top en montre connectée.
Oui,
la Suisse peut faire ça.
La Suisse est faite pour faire ça. Pourquoi? Parce que la spécialité de l'industrie horlogère suisse, c'est quand même le haut de gamme, comme on l'a dit avant. Et qu'est-ce qu'il est, le haut de gamme? Il est éternel. Une montre mécanique qui fait tic-tac, tic-tac, dans 100 ans, elle marche. Dans 1000 ans, elle marche.
Alors qu'une montre connectée,
qu'une montre connectée, dans 3 ans, elle est peut-être non seulement obsolète, mais dans 5 ans, vous pouvez même plus la remplacer.
Et son autonomie est faible, une journée,
voilà.
Un peu plus.
Donc, vous avez d'un côté l'art horloger avec son éternité, et vous avez la technologie horlogère avec son obsolescence. Et tout un chacun peut s'acheter les deux parce qu'elles n'ont pas la même fonction. Il peut porter une montre connectée de jour parce qu'il a besoin des informations. Et puis, dans d'autres moments, il porte une montre, un objet d'art, un objet éternel.
Donc, quand Nick Hayek dit qu'eux ne sont pas, ne fabriquent pas, ne sont pas une compagnie de biens de consommation électronique, et qui, évidemment, prend ça avec un peu de condescendance, il a à moitié tort, à moitié raison, qu'est-ce que vous lui rétorquez?
Je pense qu'il a à moitié raison, moitié tort. En tout cas, je le comprends. Je le comprends.
Vous avez été plus critique par le passé vis-à-vis de Nick Hayek et de son attitude un peu condescendante, je reprends le terme, vis-à-vis de la montre connectée. Il disait, on va pas se lancer là-dedans, on va pas faire un téléphone au poignet. Vous avez l'impression de faire un téléphone au poignet, vous?
Non, écoutez, je ne me souviens pas d'avoir été critique à ce sujet-là, mais nous, on a fait un téléphone au poignet, vous avez raison. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait un téléphone au poignet? Enfin, pourquoi? Parce qu'il y a quand même une raison. C'est parce que nous vendons des montres à partir de 1000 francs suisses. Or, Apple a des montres connectées qui commencent à 400, mais ils en ont aussi qui coûtent 800 ou 1000, etc. Et on s'est dit... Si un jeune consommateur, je parle d'un jeune consommateur, est-ce qu'il va acheter une montre à quartz, avec une pile, à 800 francs, ou bien est-ce qu'il va acheter pour le même prix une montre connectée qui lui donne tout son monde et toutes ses connexions? Nous avons parié sur le fait que ce jeune va s'acheter plutôt une montre connectée qu'une montre à quartz qui indique l'heure et la minute dont il n'en a rien à faire. Donc, la montre connectée peut être une concurrence pour moi, pour Tagoyère, pas pour Hublot. Hublot, ils s'en foutent.
Oui, oui.
Donc, on s'est dit, il faut qu'on la fasse pour barrer la route et pour que si ce consommateur veut une montre connectée, qu'il la trouve aussi chez moi.
Vous avez fait des plans. Ça représentera combien des exportations horlogères suisses, cette montre connectée, d'ici 5 ou 10 ans? Vous avez déjà ces scénarios-là en tête?
Ah non, je ne les ai pas. D'abord, ils sont difficiles à faire parce que je ne sais pas quelles seront les marques suisses qui vont s'y lancer.
Pourquoi Tissot, Longines, etc. n'y sont pas comme vous? Au fond, vous êtes quasiment les seuls sur ce secteur. Tissot, c'est aussi des montres jusqu'à 2000, 3000 francs. Longines aussi. Pourquoi ils n'y vont pas, au fond?
Mais je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une raison. C'est qu'ils sont très fidèles au Swiss Made.
Oui, vous, c'est moins votre problème. Hein.
Alors, c'est pas... Oui, nous sommes extrêmement fidèles au Swiss Made. Nous faisons que du Swiss Made. Sauf
celle-là.
La montre connectée. Car elle peut pas être Swiss Made.
Pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait pas en faire une 100% suisse avec des microprocesseurs
facile,
fabriqués à la vallée
la
de Joux,
etc.?
Voilà. C'est possible.
Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'une montre connectée, c'est quoi le mouvement? Le mouvement, c'est un microprocesseur.
On peut en fabriquer en Suisse des microprocesseurs, 100% Swiss Made,
pas de cette complexité.
D'accord.
De cette complexité, il y a que 7 ou 8 entreprises américaines, dont le leader est Intel, qui la fabrique. Mais la montre connectée, avec un microprocesseur, elle sert à rien, elle peut rien faire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un langage. Et qu'est-ce qu'il y a comme langage aujourd'hui dans le monde? Il y a iOS, c'est 30% du wearable, des connexions, et le reste, c'est 70%, c'est Android de Google. En Suisse, on pourra jamais construire un système, un operating system, langage.
Jamais.
Mais jamais, parce qu'il ne sera jamais promu de la même manière que Android, qui a quand même 4 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et maintenant, je fais un programme, un operating system en Suisse, mais qui va le prendre? Les Américains, ils ont un véritable monopole là-dessus, et donc le système operating et le microprocesseur ne sont pour le moment, donc, et pour moi, pour toujours, pas fabricables en Suisse.
Il n'y aura jamais de 100% Swiss Made connecté?
Si, il y aura des montres connectées, et je vais vous révéler quelque chose, la première montre connectée est suisse. La première montre connectée est suisse, 1996, par Swatch. Et elle s'est appelée Swatch Access. Et j'allais, moi,
ah oui,
à Verbier,
dans ski,
et à Verbier,
ouais,
je passais à travers, ouais, les portes, sans sortir mon abonnement, parce que l'abonnement était sur ma montre.
Ils ont eu raison trop tôt,
ça,
Swatch.
Ça s'appelle une montre connectée.
Ils ont eu raison trop tôt. C'était il y a 20 ans, c'était peut-être trop tôt, non? Pour que ça
alors,
soit
c'était peut-être
mondial.
Un peu trop tôt. Oui, c'était trop, peut-être, probablement c'était trop tôt, mais c'était génial, et ils étaient les premiers. Personne s'en souvient. Maintenant, entre ça et faire une montre qui a toutes les fonctions d'un téléphone, ah ben, il y a un monde. C'est comme escalader le marché rue et monter à l'Everest. C'est pas du tout à fait la même chose.
Non, on a fait le premier, mais pas le deuxième, a priori. Jean-Claude Bivet, le quartz, même si vous ne comparez pas les deux époques, on sait que le quartz et les montres digitales avaient révolutionné l'horlogerie. Elles ont quasiment disparu. Ces montres, on n'en voit plus. Est-ce qu'on verra encore des montres, vraiment des objets au poignet connectés dans 5 ou 10 ans? Parce qu'on peut estimer qu'à l'époque, notre vie connectée se résumera pas à la montre, mais aux vêtements, aux bracelets, aux lunettes, etc. Peut-être que le concept de montre connecté sera lui-même dépassé dans 5 ou 10 ans, c'est possible.
Mais ce qui sera dépassé, c'est le téléphone. Alors, ça, c'est la première chose qui va disparaître.
Oui.
Le téléphone, il est obsolète, c'est fini, il n'y a plus de téléphone dans 5 ans. Donc,
il n'y a plus de smartphone dans 5 ans?
Je pense pas, non. Ouais, si vous écoutez Silicon Valley, j'y vais une fois par mois, pour eux, le téléphone, c'est déjà le passé. D'ailleurs, les actions Apple, tout ça, les cours...
Donc, il y aura quoi? Ce sera connecté, comme je le disais, avec des vêtements,
oui,
avec des lunettes,
oui,
avec des puces dans l'oreille.
Ailleurs.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'il faut que le wearable soit un gros machin comme ça, qui est votre téléphone?
Donc, vous annoncez aussi la mort de la montre connectée?
Non, puisque il faut quelque chose qui remplace le téléphone.
Ah,
et qu'est-ce qui va
montre.
Remplacer le téléphone? C'est probablement la montre. Ça, c'est une des hypothèses. C'est pas la seule. Mais une des hypothèses de remplacement, c'est évidemment la montre. C'est pour ça que Apple et tous les Américains et tout le monde est aussi actif là-dessus. Parce qu'ils savent tous que le téléphone, il vit ses dernières années.
200 000 montres connectées, c'est ce que vous prévoyez pour 2017 chez Tagoyer, Jean-Claude Bivet. On va commenter la presse qui nous amène quelques images de sponsoring. Vous êtes via Hublot notamment, très actif dans le sponsoring du monde du sport. Alors on est au cœur du sujet, Valérie Drouet, Esther Coco. Les dégâts d'image du dopage et de la corruption sur le sport.
Et donc, sur le sponsoring avec la Tribune de Genève, qui part du cas d'Adidas, qui veut rompre son contrat avec la Fédération internationale d'athlétisme jusqu'en 2019, à cause justement du dopage et de la corruption. Et le quotidien élargit un peu le thème avec l'interview du français Lionel Maltaise, économiste du sport. Pas surpris par les menaces d'Adidas, il explique que le sponsor, quel qu'il soit, cherche à soigner son image et sa réputation. Et donc, s'il s'acoquine avec une instance ou un sportif dont cette même réputation est remise en cause, eh bien, il peut perdre beaucoup et une image, eh bien, c'est très très long à reconstruire. Et Lionel Maltaise de militer pour une implication des sponsors dans la gouvernance des fédérations sportives, notamment au niveau éthique.
Vaste question, Jean-Claude Biver, vous êtes actif, je le disais, dans le monde du sport. Hublot, c'est notamment c'était la Coupe du Monde de foot, hein, la FIFA qui ne connaît pas de très beaux jours. Est-ce que vous vous êtes posé cette question de vous désengager, notamment du foot ou d'autres sports, par rapport à des considérations éthiques, hein?
Bien sûr qu'on s'est posé la question. Vous savez qu'on a quand même été les premiers, l'Euro 2008, à donner toute notre visibilité sur le terrain, ces banderoles de 4 mètres de long que nous avions au point du corner, à côté de la banderole de l'UBS. Et j'ai dit à M. Platini, je l'offre à No to Racism. Parce que je veux amener un élément éducatif dans le sport et il faudrait que tous les sponsors s'allient et que la 16e de finale, nous ayons que no to racism, no to racism, no to racism tout le long du terrain. Donc, on l'a fait. Maintenant,
est-ce que c'est pas mauvais pour l'image, je veux dire, de continuer de vous associer avec la FIFA et le monde du foot?
Oui,
par
parce
exemple,
que
je pose la question directement.
Le problème d'Adidas, enfin pas le problème d'Adidas, le problème de ce que j'entends, je l'entends ce matin pour la première fois, de la Fédération internationale d'athlétisme, c'est pas que ce sont les dirigeants qui ont verser de l'argent ou qui ont triché ou qui se sont enrichis sur le dos du sport.
Enfin, visiblement, pour l'athlétisme, pardonnez-moi, l'ancien patron était corrompu. Ça, ça a été établi,
voilà. Oui. Alors, si les organismes sont corrompus, c'est pas bon, mais ça tue quand même pas encore l'image du sport. Par contre, si le sport est truqué, si y a des défaites au tennis programmées et qu'on apprendra que Djokovic a perdu un match exprès, alors là, le sport est en danger. Si ce sont des dirigeants qui s'enrichissent illégalement, ça c'est inévitable. Dans toutes les entreprises, il y a toujours un mouton noir, quelqu'un qui s'enrichit illégalement. Alors, aussi longtemps que le sport est propre, le sport, c'est-à-dire les sportifs, eh bien, je ne pense pas que nous ayons à souffrir d'un manque d'image. Mais si, et aussi longtemps que ce sont que les dirigeants, c'est gênant, mais ils n'entament pas quand même le sport. D'ailleurs, vous allez voir, l'Euro va commencer à Paris au mois de juin. Les gens auront le même enthousiasme à regarder si la Suisse perd contre la France ou si la Suisse gagne contre la France. On sera tous devant notre télévision. On aura complètement oublié que M. Platini a été suspendu 8 ans. Ça sera passé. Par contre, si on apprend que les matchs sont truqué à ce niveau-là, c'est fini, plus personne ne regarde.
Un peu cynique comme attitude, non? Au fond, on s'en fiche, quoi, en tant que spectacle.
Non, on s'en fiche pas. Ça dépend tout de la... On s'en fiche pas. Je m'en fiche pas non plus quand c'est un politicien qui le fait. Vous savez, la corruption, elle est partout. Le sport n'est que le reflet triste ou net de notre société. C'est comme à l'époque, on disait les rockers se droguent, mais c'était le reflet de la société, hein. Oui. C'était rien de particulier. Donc, on est dans un reflet triste ou net de notre société, où il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale.
Mais vous associez à ça, oui.
Je ne m'associe pas, mais je vis dans cette société.
Ouais.
Je ne suis pas prêtre.
Ouais.
Et pourtant, je prêche tous les jours dans mon entreprise et auprès de mes clients l'éthique, l'amour. Les Beatles chantaient le 25 juin 1967 à la BBC « All we need is love ».
Pourquoi pas,
c'est dit.
Pourquoi pas quitter le monde du sport? Vous associeriez votre nom à la culture, à d'autres choses, par exemple.
Parce que vous ne le quittez pas non plus. Vous allez regarder la télévision, vous allez vous enthousiasmer, vous allez vous enflammer. Oh, Federer vient de gagner, j'ai appris. Ben voilà, il y a toute la TV, toute la radio qui dit « Federer vient de gagner le quart de finale ».
Vous allez me dire que ce sont les lois du commerce, Jean-Claude
Biver. Non, ce sont les lois des émotions.
D'accord. Bon, à propos d'émotions, le débat se poursuit autour de l'initiative pour le renvoi des criminels étrangers. Très émotif aussi et très politique.
Oui, la prise de position du président du PLR, Philippe Müller, contre l'initiative de mise en œuvre de l'UDC dans le Blick hier n'est pas passée inaperçue. Il la qualifiait d'attentat contre la Suisse. Alors aujourd'hui, Tony Brunner, le président de l'UDC, lui donne la réplique. Tout le monde se mobilise pour faire échouer l'UDC au lieu de parler de la sécurité de la Suisse, déclare Tony Brunner. Selon lui, les des exemples de délits bagatelles, comme les infractions routières qui seraient suivies d'un renvoi automatique. Exemple brandi par les opposants, eh bien, ils sont tirés par les cheveux. Je ne veux pas d'une culture d'accueil pour les criminels étrangers, dit Tony Brunner. Côté socialiste, le vaudois Roger Neumann se réjouit de voir le président du PLR s'impliquer sérieusement dans cette campagne. Une implication importante, car les sympathisants PLR pourraient être tentés par l'initiative de l'UDC.
Brièvement, vous votez évidemment, Jean-Claude Biver, j'imagine. Que pensez-vous de cette initiative-là? On dit que c'est le deuxième étage de la fusée, dont le premier était le 9 février 2014, immigration de masse. Comment vous voyez les choses en tant qu'entrepreneur?
Écoutez, j'ai pas bien suivi. Je suis très peu la politique. À vrai dire, je suis plutôt la macro-politique, la politique au niveau mondial. Alors, je suis peut-être pas un bon citoyen parce que je m'occupe pas trop de la politique suisse. J'estime que, d'abord, il faut que je vous dise une chose. Je pense qu'on est privilégié en Suisse. On a quand même des politiciens de grande qualité. Mais maintenant, qu'est-ce que je pense d'une initiative
de l'UDC, de la politique de l'UDC
qui veut renvoyer des étrangers? Qui commettent des délits graves, et qu'est-ce que c'est un délit grave?
En tant qu'étranger, parce que vous êtes d'origine luxembourgeoise aussi.
Ben voilà, en tant qu'étranger, quand j'arrive dans un pays, je dis bonjour. Et je dis bonjour au pays, j'apprends la langue, et j'essaye de m'insérer dans le pays, et j'essaye d'avoir des amis du pays. Vous savez, mon fils est en Chine depuis 13 ans. Eh bien, quand il a fêté ses 30 ans, j'ai demandé à sa secrétaire de m'organiser une surprise, un repas surprise, il ne savait pas que j'allais venir. Et quand j'ai vu la liste de 50 invités, j'ai dit, mais il n'y a pas un Suisse, il n'y a que des noms chinois. Et elle m'a dit, il est tellement intégré, il joue au foot avec les Chinois, il est avec les Chinois, tous ses amis sont Chinois. Ça, j'appelle ça de l'intégration, mais il faut une volonté pour s'intégrer.
Donc ça ne vous choque pas beaucoup plus que ça, cette initiative-là?
Écoutez, les Allemands renvoient, si vous avez fait 3 ans de prison, après 3 ans de prison, les Allemands sont d'accord de vous renvoyer à l'étranger. Maintenant, j'estime aussi... tout étranger qu'il est, il doit s'adapter à nos lois, et un récidiviste qui viole 4 fois des enfants, je ne vois pas pourquoi on devrait pas le renvoyer chez lui. Mais le problème va être qu'on peut pas le renvoyer chez lui parce que le pays d'où il vient, il dit non, moi je le veux pas.
D'autres points forts de la presse qui pourraient vous intéresser?
Dans La Liberté, Le Courrier, Le Quotidien jurassien, coup de projecteur sur l'innovation inversée ou innovation frugale. Le principe, une entreprise développe ses produits sur les marchés émergents avant d'atteindre les pays riches, avec certes des marges plus faibles, mais avec des volumes de vente plus importants. Il ne s'agit pas de produits de moindre qualité, mais simplement suffisamment bons pour répondre aux besoins. Un exemple célèbre cité par les journaux, la voiture Logan de la marque Dacia, dite la voiture du pauvre, dessinée par Renault et vendue aujourd'hui dans toute l'Europe.
La Logan, c'est un bon exemple, Jean-Claude Biver.
Génial. La Logan, c'est génial. C'est absolument génial. Il y a aussi dans les ordinateurs, c'est absolument génial. Ça, on est dans le 21e siècle. On est dans le siècle du partage.
Et en matière d'horlogerie, la Logan, c'était la Swatch il y a 30
la
ans.
Swatch.
C'est ça.
Mais précurseur. Monsieur Hayek a été 40 ans en avance, la Swatch. C'est fabuleux.
La Swatch d'aujourd'hui, elle existe toujours.
Génial.
Oui, elle existe toujours. Mais le Hayek d'aujourd'hui, c'est qui? C'est vous? C'est quelqu'un d'autre? Ou bien
le Hayek d'aujourd'hui,
personnage
c'est son
ne pourra
fils.
Plus exister.
Je veux dire, c'est Nick Hayek.
Bel hommage. Merci beaucoup, Jean-Claude Biver, d'avoir été avec nous, patron du pôle horloger du groupe LVMH. Les chiffres, c'est dans une minute. On verra si c'est -3 ou -4%.